deux messieurs nulle part qui n'ont pas de ces aventures rocambolesques et personnelles. Mais vous allez voir que sa vie politique est au moins aussi extraordinaire que sa vie sentimentale. Voilà. Merci.
Bien, bonjour. Donc, c'est la deuxième partie de la vie de Michel Mielvac. Bon, je ne sais pas si tout le monde était là l'année dernière ou pas. Donc, je vais faire un très bref petit rappel pour que vous sachiez qui est un peu ce monsieur, cet énergumène qu'on appelle Mielvac, que la Corrèze a un peu oublié, mais qu'il est temps de ressusciter. Alors, Michel Mielvac est né, très bien, mais Pierre-Antoine Maximin Mielvac, qui s'est fait appeler après Michel, est né en 1854 à Messac. Donc il est de chez nous, il a un père huissier, une mère institutrice, qui s'appelle Hortense Lacour, c'est important. Et donc voilà, son père est originaire de Saint-Martial-en-Trègue, il rencontre sa mère à Saint-Martin-la-Méanne, et puis, comme sa mère est originaire de Messac, et ben, ils viennent s'installer ici. Le père fait un mariage intéressant parce que sa mère a un peu d'argent. Le père est greffier à Messac, donc c'est un mariage tout à fait intéressant. Et donc, en 1854, Pierre-Antoine Maximin Mielvac naît. Il grandit à Messac jusque vers 12-13 ans, j'imagine, à la suite de quoi il va à Brive, au collège où il fait son lycée, ses études secondaires. Et puis, à 18 ans, comme dans la chanson, il monte à Paris. Il a 18 ans, il quitte sa province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, parce qu'il n'a pas foutu grand-chose, c'est-à-dire qu'au lycée de Brive, au collège, on ne se souvient pas de lui comme d'un élève tout à fait brillant. Donc il part, et comme dans la chanson, chez le tailleur le plus chic, il se fait faire un beau costume bleu. C'est-à-dire que comme il ne fait pas grand-chose, il est supposé faire une capacité en droit, mais ça ne dure pas longtemps, et après il fait un peu tout le reste de travers. Il pense plutôt à mener la belle vie, la vie parisienne, à s'amuser, à vivre un peu au-dessus de ses moyens. Et bon, je ne sais pas s'il a eu sa capacité en droit finalement ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1874, il a 20 ans, et son père lui obtient, par piston, il connaît le député de la Corrèze, un conservateur qui s'appelle Auguste Lestourgie. Il lui obtient par piston un job à l'Assemblée nationale. Et donc Michel Mielvac entre à la questure de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au service administratif, si vous voulez, de l'Assemblée nationale. On a un temps, il recopie les procès-verbaux de séance, et puis un jour il est attaché à la présidence de l'Assemblée. Donc il est un des secrétaires, un des employés administratifs qui fait partie des grands services de la présidence, ce qui lui permettra de dire qu'il était le secrétaire particulier du président de l'Assemblée nationale. Voilà. Et puis, c'est là que s'opère son changement d'identité, c'est qu'il fréquente ce monde parisien. Peut-être qu'il est un peu, je ne sais pas, peut-être qu'il a été vexé, peut-être qu'il fait un complexe, peut-être qu'il a été humilié, parce que bah, lui, il vient de Messac, il a son accent, il roule les airs. Et puis il voit ce monde qui brille à l'Assemblée nationale, ce monde des puissants, ce monde des aristocrates, parce qu'on sort du Second Empire, on est à la Troisième République et toute jeune, et ma foi, bah, les privilèges anciens demeurent. Et alors est-ce qu'il est jaloux, est-ce qu'il est envieux? En tout cas, il voit ce monde qu'il fait rêver et dont il n'est pas, et il décide d'y entrer. Et alors on lui dit que pour entrer dans ce monde, il faut trois choses, il faut de la fortune, il faut un nom, il faut un titre. Et lui, il n'a rien de tout ça. Donc, il dit la fortune, c'est pas simple, on verra ça plus tard. Le nom, il n'en a pas non plus. Il dit, bah tiens, ma mère s'appelle Lacour, j'ai qu'à m'appeler Mielvac de Lacour. Ma arrière-grand-mère s'appelait Garbeuf, c'est une famille un peu connue dans le Périgord, dans la Dordogne. Il a dit, bah tiens, je vais m'appeler Mielvac de Lacour de Garbeuf. Et il n'a pas de titre, alors il se dit, tiens, vicomte, ça va bien, ça sonne bien en plus. Il est né à Messac, en pleine vicomté de Turenne. Il se dit, allez hop, le vicomte, c'est moi maintenant. Et donc, il dit, voilà, je vais être le vicomte Mielvac de la cour de Garbeuf pour mieux arnaquer tout le monde et pour pouvoir impressionner. Et c'est comme une carte de visite, en fait, qui va permettre de rentrer dans les salons, de rentrer dans les soirées, de se faire inviter, etc., sans être personne à part le petit imposteur, en fait. Et donc à Paris, il commence à fréquenter des cafés mondains comme le café Vachette. Et puis il rencontre au fur et à mesure toute une clique de gens à peu près aussi peu recommandables que lui, toute une clique de faux aristocrates, des faux barons, des faux princes, des faux ducs, des vrais escrocs qui ont des passés judiciaires longs comme deux fois mon bras, parce qu'ils ont quand même des sacrés pédigrés. Et puis il vit d'un petit salaire de l'Assemblée nationale et puis d'arnaques, de petites arnaques. Il arnaque surtout des femmes parce qu'il est assez bel homme, Michel Mielvac. Au passage, il change de prénom. Pierre, Antoine, Maximin, tout ça, c'était bon pour Messac, pour Rive. À Paris, il s'appelle Michel. C'est quand même... Il préfère s'appeler Michel. Et puis même, il change l'orthographe de son nom, comme tous les escrocs, les apprentis escrocs, c'est très pratique. Il rajoute un C à Mielvac. Donc c'est plus Mielvac QUE, c'est CQUE. Et c'est bête, c'est un détail, mais après, quand il y aura signé Mielvac CQUE, il dira « Ah, pas moi, moi je m'appelle Mielvac QUE ». Il signera des tas de lettres vicomte de la cour. Il dira « Moi, je m'appelle Pierre-Antoine Maximin Mielvac, regardez mon année de naissance ». Ou alors, il changera son année de naissance, 55 au lieu de 54, pour embrouiller. Un petit escroc, voilà, qui vit sur les boulevards parisiens, et notamment, donc ça c'est l'Assemblée nationale, où il rentre à partir de 1874, et puis toute cette clique de faux aristocrates qui fréquentent, qui sont des vrais escrocs, qui ont une arnaque principale, qui est très courante à l'époque, à la fin du 19e, on est en 1887, à ce moment-là, c'est l'arnaque au mariage riche. C'est quoi l'arnaque au mariage riche? C'est de trouver une riche héritière, ça peut être dans les deux sens d'ailleurs, hein, parce que dans sa bande il y avait des jeunes femmes aussi qui arnaquaient les hommes, mais le but c'est de trouver une jeune héritière, riche, et puis de la séduire, et une fois qu'elle est séduite, il y a deux solutions, soit les parents payent pour acheter le silence du séducteur, soit la séductrice accepte de se faire épouser, et à ce moment-là, le mari peut profiter de la fortune de sa femme. Et alors, il fréquente cet endroit, je ne sais pas si on voit bien, ici, ça c'est l'Arc de Triomphe. Donc il fréquente un endroit qui est sous l'Arc de Triomphe, en haut de ce qu'on appelle aujourd'hui l'avenue Foch, mais qui à l'époque s'appelle l'avenue du Bois de Boulogne, parce qu'on est avant la guerre de 14, ça ne s'appelle pas encore l'avenue Foch. Mais la mairie de Paris a installé, dans cette avenue du Bois de Boulogne qui est là, qu'empruntent les beaux attelages des actrices et des femmes connues qui vont au champ de course au Bois de Boulogne, qui viennent des Champs-Élysées, qui vont au champ de course. Et alors c'est devenu un lieu d'observation, une espèce de salon à ciel ouvert. La mairie de Paris a mis à peu près 200 chaises en métal qui sont là. Et alors les gens viennent là à la fois pour voir et pour se faire voir. Et alors, au milieu de tout ce beau monde, et ben, il y a tous ces escrocs, ces faux princes, ces faux ducs, etc. Et M. Mielvac et toute sa bande qui essayent de trouver des jeunes filles à marier. Alors, il fait 2-3 coups, et puis bon, tout ça n'est pas très probant, ça reste un petit escroc. Et puis, un jour, on lui parle d'une jeune Espagnole qui habite juste à côté des Champs-Élysées, qui est très malheureuse, mais très très riche. Elle est très malheureuse parce que quand elle avait une vingtaine d'années, on l'a forcée à épouser un Espagnol, le fils de l'ancien Premier ministre d'Espagne, qui malheureusement n'a pas été un très bon mari. Non seulement il était homosexuel jusqu'au bout des ongles, ne supportant pas la compagnie des femmes. Donc elle découvre ça le soir de sa nuit de noces avec un peu de tristesse. La presse parisienne, c'est quand même largement... largement calomnié ce pauvre Espagnol quand il disait qu'il avait un micro-pénis. Donc voilà, on se demandait si c'était un homme ou une femme. Bref, la presse s'est pas mal moquée de lui, et elle s'est retrouvée mariée de force avec ce garçon qui avait 3 ans moins qu'elle, qui avait 18 ans, qui n'était pas fini, et donc elle a compris qu'elle s'était fait épouser pour son argent, et en plus, elle s'est fait épouser pour la petite histoire, parce que le frère de cette jeune femme voulait épouser la sœur de son futur mari. C'est un mariage croisé comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Le frère et la sœur épousent la sœur et le frère. Et pour que son frère puisse épouser cette jeune fille, il fallait qu'elle épouse le frère. Et quand elle a voulu divorcer, vous imaginez que son frère l'a pas bien pris. Donc elle a été mise un peu au banc de sa famille. Son divorce, d'ailleurs ce n'était pas un divorce à l'époque, c'était une annulation du mariage par le pape, ce qui n'est pas rien, a fait la une des journaux parisiens et ça a fait un scandale, cette affaire-là. Son mari a été moqué, c'était le fils de l'ancien Premier ministre d'Espagne, donc c'était pas n'importe qui en plus, donc un mini-incident diplomatique. Et donc, cette jeune femme, après avoir fait le scandale, était un peu enfermée chez elle, dans son entresol d'une petite rue à côté des Champs-Élysées. Et alors, elle était étroitement surveillé par ce monsieur, José Rubau d'Amadeu, qui était supposé être son homme de confiance, supposé être son avocat, qui est celui qui l'a beaucoup aidé à divorcer, et il l'a d'autant plus aidé à divorcer qu'il avait des vues sur elle, et qu'il avait très envie de se la garder pour lui, et la jeune femme et la fortune. Sauf qu'elle a 25-26 ans, il en a 44, qu'il est boiteux, petit, pas très beau, catalan, alors qu'elle, c'est une Espagnole. Alors, elle n'est pas née en Espagne, elle est née à Cuba, c'est important, d'où elle tire sa fortune. Ses parents étaient de riches propriétaires terriens à Cuba, d'une noblesse, je l'appelle une génération, une ou deux générations, nommée par la reine d'Espagne. Mais voilà, elle arrive en Europe à 13 ans, elle quitte son île ensoleillée, elle arrive à Paris où elle fait ses humanités, et 5 ans plus tard on la marie, ou 6 ans plus tard on la marie. Elle met 5 ans à divorcer, elle se retrouve avec ce gars qu'elle n'aime pas du tout, et qui, avec la complicité de Marceline Bond, qui est la gouvernante, ces deux-là sont associés ensemble, l'empêche de sortir, surveille toutes ses dépenses. En gros, elle est en prison, elle est dans une cage dorée où elle ne peut pas sortir. Elle n'a qu'une confidente, c'est sa femme de chambre, une Suissesse qui s'appelle Emma Bulloz. Et Emma Bulloz est amoureuse et va bientôt épouser le cuisinier de cette jeune femme qui s'appelle Mercedes Martinez de Campos. Et alors, bon, elle a ces deux-là qui l'empêchent de vivre, et puis elle a les deux-là qui la soulagent un petit peu. Et alors, dans les journaux, on parle de cette Mercedes. On donne même le détail de sa fortune, ligne à ligne. Vous prenez votre patrimoine, vous faites toutes les lignes de ce qui compose votre patrimoine, et puis un jour, vous retrouvez ça dans le Figaro. Et vous dites, c'est très sympa. Et quand vous êtes un jeune comme Mielvac qui a besoin d'argent, vous découvrez ça. Ma foi, qu'est-ce qu'elle est jolie. Et donc, il se dit, cette jeune femme, elle est pour moi. Ça, c'est dans mes cordes de séduire. C'est un peu un bel ami, Mielvac. Hein. C'est... en séduisant les femmes, et donc il dit « allez pour moi ». Et donc il commence à lui faire sa cour, sauf qu'on lui ferme la porte au nez, très rapidement, Rubaudin lui ferme la porte au nez, alors il décide de kidnapper Mercedes, avec ses amis et ses complices. Lui, il a, vous voyez, toute une clique de complices, des barons, le faux duc de Séville, le faux baron de Brix, le faux marquis de Sedillo, etc., etc., des collègues de l'Assemblée nationale, sa sœur, son beau-frère, des jeunes femmes qui se disent deux machins, mais qui sont pas deux machins, tout ce beau monde se réunit à l'opéra pour concevoir le plan. Bien sûr, Mielvac promet à tous ses complices, avec des lettres, avec des reconnaissances de dette, valables à partir du moment où il réussira à épouser Mercedes, il leur promet une part du gâteau, une part du butin. Mercedes, elle a à peu près entre 4 et 5 millions de francs. À l'époque, le salaire mensuel d'un ouvrier, par chenou ici, c'est 25 francs. Et elle a, mettons, multiplié par 12, ça fait 300 francs par an. Et elle a 5 millions de francs. Ça en fait. Et donc, il promet des choses à tout le monde pour se faire aider. Et donc, le 15 juin 87, a lieu l'enlèvement de calèches. Une première pour arracher Mercedes des bras de sa dame de compagnie. Elle est en train de se promener pour aller au Bois de Boulogne. On l'arrache, on l'entoure, ils sont une dizaine, ils l'entourent, ils l'arrachent des bras de sa dame de compagnie, ils la jettent dans une voiture à cheval, une autre derrière se met en travers pour barrer la route aux éventuels poursuivants, et hop, c'est parti, il y avait un gendarme qui était là, qui n'a rien vu, ça s'est passé en 3 minutes, il n'y avait plus personne, Mercedes était enlevée, kidnappée. Ça fait immédiatement la une des journaux dans le monde entier. Le Télégraphe, c'est un journal australien. Il y a des journaux d'Afrique du Nord, il y a l'Ouest Sahel, vous voyez, qui en parlent, tout le monde en parle. Ça fait la une du Figaro pendant 11 jours d'affilée, cette affaire-là. Et après, c'est dans les pages intérieures. Donc c'est un vrai retentissement médiatique. On parle du scandale de nos people, on en parle tous les jours sur BFM, dans les journaux, etc. C'est pareil, c'est le même effet. Qui est ce jeune homme? On ne connaît pas son nom, très vite on va le découvrir. Qui est cette jeune femme? Ils ont été kidnappés, où est-ce qu'ils sont? Mielvac a déjà une entreprise de désinformation, il dit il a des complices qui travaillent avec la presse pour dire on est parti par ici alors qu'en fait ils partent par là. Tout ça est très huilé, très organisé. Et donc il part de Paris, il se réfugie pendant 2-3 jours à Montmorency, à partir de quoi ils partent soit à pied, soit en voiture à cheval, soit en train. Ils varient les moyens de communication pour aller jusqu'à Mons, puis à Bruxelles. Ils sont poursuivis par la justice, la police, par M. Rubau d'Amadeu, qui lui voit s'échapper la poudre d'or. De Bruxelles jusqu'à Anvers, d'Anvers à Ostende. De là, de nuit, ils prennent un bateau pour Douvres et ils se réfugient à Londres. toujours poursuivie. Mielvac voudrait pouvoir épouser Madame de Campos, sauf qu'elle n'est pas officiellement divorcée encore. Et il y a tout un... La France, Mercedes est mariée à Paris, mais la France qui les a mariés ne refuse de les divorcer. Pour quelle raison ? Diplomatique, évidemment, mais parce qu'il n'y a aucune raison juridique, mais elle ne peut pas divorcer. Donc leur voyage à Londres dure à peu près 6 mois. Ils se planquent, ils sont armés, ils ont des cartouches, des pistolets, des hommes de main, etc. Parce que Papagone Adéou embauche lui aussi des hommes de main armés pour essayer de re-kidnapper Mercedes. Et finalement, au bout de 6 mois, eh bien, ils réussissent à se marier à la cathédrale Saint-Georges à Southwark, qui est un quartier de Londres. Et Mielvac a gagné son coup. Et comme Mercedes est consentante, parce que c'est son beau Michel, elle a été séduite, et donc... Ma foi, elle a bien fini par comprendre que c'était une crapule, mais c'est un bel homme, séduisant, un vrai celui-là, etc. Et donc elle est très heureuse. Elle veut un homme, lui il veut de l'argent. Ils disent, ben voilà, chacun a ce que l'autre désire. Et finalement, ben, ils sont très heureux. Je pense qu'elle a à peu près compris qu'il n'était pas vicomte, mais elle s'en fiche un peu. Ils font un beau voyage de noces en Italie. Et puis très vite, ils vont s'installer pendant quelques temps à Arcachon, dans une belle villa. Et 6 mois après le mariage, je vous laisse faire le calcul, 6 mois après le mariage, j'ai une petite Marie-Hélène Hortense, qui est la fille de Mielvac et de Mercedes de Campos. Voilà. Petit détail qui a quand même son importance, Mercedes de Campos est quand même fait conseiller d'avoir un contrat de mariage en séparation de biens, on ne sait jamais, et donc Mielvac, ne voulant surtout pas qu'on croit qu'il l'épouse pour son argent, a signé ce contrat de mariage, ce qui... Femme amoureuse ne serait rien refusé à son époux, va quand même lui lâcher le pognon à la thèse grand V, à son mari Mielvac. Donc ils sont à Arcachon, et on est en 1888, et tout de suite, Mielvac, qui a travaillé pendant longtemps, pendant 13 ans à l'Assemblée nationale, rêve d'un destin politique. Alors à l'époque, les campagnes, ça ne se fait pas comme aujourd'hui, 3 mois à l'avance, dans les rues. Il fait campagne depuis Arcachon, d'où il envoie une petite lettre en faisant expliquer qu'il allait devenir le nouveau pape de Bénin. Il se présente à Bénin, où il a acheté un très beau château qui s'appelle le château de Sabot, et qu'il est avec l'argent de Mercedes, d'ailleurs que Mercedes lui a acheté. Quand on va à Tulle, aux archives départementales, on voit bien que ce n'est pas Mielvac qui achète un château, c'est Mercedes qui l'achète. Pour son mari. Donc elle lui achète un beau château ici dans les terres, et ils reviennent s'installer ici. Le temps des travaux, il reste un peu à Arcachon, mais bon, les travaux avancent relativement vite. Et donc depuis Arcachon, Mielvac se présente à la mairie de Bénin. Alors à la mairie de Bénin, il y a un maire qui s'appelle Félix Dussol, qui est, je crois, maire depuis 1871, enfin depuis au moins une quinzaine d'années, un peu moins peut-être.
Un peu plus.
Un peu plus.
Non, 1881.
D'accord, donc il est maire depuis un petit bout de temps quand même déjà. Donc Mielvac fait campagne depuis Arcachon sans se déplacer. Il n'avait pas grande chance d'être élu, donc il dit bon ben ok, il est battu, et il dit on verra la prochaine fois. Et donc c'est là que commence la nouvelle histoire, voilà pour le. Hop, ça va marcher. Si j'ai plus de clim, hein, ça va. Ah, je sais ce qui se passe. C'est parce que j'ai pas tourné les pages assez vite. Je vais voir si je vais marcher comme ça. Sinon, il faut que je reconnecte. Donc voilà le château de Sabot après que Mielvac y soit passé. Vous remarquerez qu'ici, il a fait mettre ses fausses armes, parce qu'il a un faux titre, un faux nom. Tant qu'à faire, il s'est fait des fausses armes. Et il a mis ici, là, à ce niveau-là, sur le fronton de son beau château, ses fausses armes à côté de celles de son épouse, parce que Mercedes a un nom comme les Espagnols, un nom, elle s'appelle Maria, et là, c'est Mercedes, Martinez de Campos y Martine de Molina. C'est des cartes à souffler, vous savez, qu'on déplie comme ça pour hésite à souffler. Et donc, ils sont installés ici, et au début, ma foi, ils ont une vie de châtelain, tout simplement. Les travaux progressent, Mielvac commence à donner des réceptions assez somptueuses et commence à se faire des amis à peu près à tous les niveaux. Chez les gens de Bénin, parce qu'il leur donne du travail pour restaurer son château. Chez les politiques, parce qu'il a de l'argent et que les politiques ont toujours besoin d'argent pour une campagne, pour quelque chose, etc. Et au début, il se fait bien voir. Il a conscience que quand il s'est présenté à la mairie de Bénin, il est peut-être allé un peu à la hussarde, surtout de loin sans venir faire campagne ici. Et donc il y va cette fois-ci beaucoup plus prudemment. Il essaie de se faire bien voir. Il se fait très ami avec le préfet de la Corrèze, qui est quand même un homme important. Et puis il se fait ami avec Michel Labrousse, qui est un député de la Corrèze, et qui est un peu le fondateur de ce qu'on appelle la République des cousins. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en Corrèze, tous les députés, etc., c'était tous des cousins. Alors c'est facile dans un département comme l'autre de retrouver, quand on fait un peu de généalogie, le cousin d'un tel et d'un tel. Mais là, ils sont vraiment très, très proches. Et donc ce Michel Labrousse est un député influent en Corrèze. Donc voilà, ça c'est la fin du premier tome. Et donc, pour comprendre un petit peu dans quel environnement arrive Michel Mielvac en 1892, quand il se lance vraiment en politique, vous voyez, il a laissé passer 3-4 ans depuis sa première tentative à la mairie de Bénin, pendant lesquels il se fait des amis. Il distribue de l'argent, il se fait des amis, il organise des chasses somptueuses. À côté de Savoie, il a l'étang de miel. Donc voilà, il a une propriété qui est immense, il a acheté des propriétés autour, il organise des chasses, des pêches, des repas somptueux, et voilà, il a beaucoup d'argent, il a du personnel, il est servi. Alors à l'époque, pas comme aujourd'hui, la Corrèze a 5 circonscriptions, Ussel, Thule Nord, Thule Sud, Brive Nord et Brive Sud, et c'est là que va se concentrer l'ambition de Michel Mielvac. La Corrèze a à l'époque 29 cantons, dont 1, 2, 3, 4, 5 sur la circonscription de Brive-Sud, celui de Beaulieu, tout au sud, celui de Messac, d'où Mielvac est originaire, celui de Bénin, où il s'est installé, celui de Brive et celui de l'Arche. Voilà. Alors, à quoi ressemble la vie politique française en 1892? C'est important, parce que quand on veut faire de la politique, il faut quand même avoir 2-3 idées, un peu de programme, il faut quand même croire en quelque chose. La Troisième République est installée maintenant depuis 20 ans, donc la République s'est quand même bien installée, même s'il y a encore quelques relents conservateurs. Et donc, on a encore, notamment la gente, pas mal de conservateurs, des monarchistes, des bonapartistes, ou des gens qui l'étaient et qui sont devenus républicains par opportunisme, parce qu'à un moment donné, quand la République était installée, on ne pouvait plus vraiment être monarchiste. Et donc, on trouve des républicains de tout poil. On a ce qu'on appelle, c'est un oxymore, hein, des républicains conservateurs. En fait, ce sont des conservateurs qui disent « je suis républicain » parce qu'il faut bien vivre politiquement. S'ils veulent avoir un espace politique, il faut qu'ils se disent républicains, ils n'ont pas le choix. Il y a des républicains opportunistes. Alors, c'est le nom du parti, ça s'appelle les opportunistes. Ça se comprend tout seul. Pourquoi on les appelle les opportunistes? Parce qu'ils votent de temps en temps à droite, de temps en temps à gauche, selon les opportunités. En gros, ce sont des centristes. Ça n'a pas changé par rapport à aujourd'hui. Les centristes sont au centre. Et ils vont d'un côté ou de l'autre, selon les opportunités, selon le sens du vent, ou selon ce qu'ils pensent, tout simplement. Il y a des républicains radicaux. Alors là, déjà, on commence à pencher vers la gauche. Et puis, il y a l'extrême-gauche de l'époque, c'est-à-dire Mélenchon et le Besancenot de l'époque, qui sont les socialistes. Voilà. Et donc, voilà comment... D'ailleurs, la répartition politique n'a pas tout à fait changé. On a toujours pareil. On a l'extrême droite, la droite, le centre, la gauche et l'extrême gauche. Donc jusque-là, rien de... Ils s'appellent différemment, mais rien de très nouveau. En Corrèze, comment se passe la vie politique? D'abord, il y a 3 sénateurs. Un sénateur qui est important, qui est un peu le parrain de la vie politique corrézienne, qui s'appelle Auguste Le Charbonnier. Il a été député pendant une quinzaine d'années, à la suite de quoi il s'est fait élire sénateur. Et puis il reste d'autres sénateurs. Je ne sais pas si ces deux-là ont été nommés à vie, mais en tout cas, à partir de la naissance de la Troisième République, il y a eu un certain nombre de sénateurs, aux premières élections sénatoriales, dans les années 70, qui ont été nommés à vie. Voilà. Et puis, alors c'était pas transmissible, mais ils étaient sénateurs jusqu'à leur décès. Donc il y en a deux qui ne joueront pas un grand rôle. Par contre, Auguste Le Charbonnier, lui, jouera un grand rôle, parce qu'il était non seulement un peu le parrain de la vie politique corrézienne, c'est un républicain, et c'est un patron de journal. Et ça, la presse, à l'époque, en Corrèze comme ailleurs, c'est un pouvoir très important. Il n'y a pas encore la télé, il n'y a pas encore la radio, il n'y a pas Internet, il n'y a pas Facebook. Ça va pas tarder, mais il n'y a pas encore Facebook. Et donc la presse écrite a vraiment un rôle très important. Il y a 5 députés, puisqu'il y a 5 circonscriptions. À Ussel, on a un monsieur qui s'appelle Léon Vacher, qui est là depuis très longtemps, qui est un boulangiste pur jus, qui est toujours boulangiste en 92, qui est un vrai conservateur, qui a été tellement bien élu qu'il a été invalidé dans son élection et remplacé par Édouard Delpeuch. Car ce qu'il faut dire, c'est que les turpitudes électorales en Corrèze n'ont pas commencé avec M. Mielvac. Tout au long de la Troisième République, il y a eu des élections particulièrement savoureuses. Des cafés ont été ouverts, on fait boire tout le monde, et le dimanche matin, on les accompagne pour qu'ils marchent droit jusqu'à l'isoloir. Voilà. Ça, parmi d'autres choses. À Tulle-Nord, à Tulle-Nord, nous avons Léon Bory, qui est boulangiste lui aussi, conservateur, il est depuis 85. Donc l'est de la Corrèze est plutôt conservateur. Et plus on descend, plus on va vers l'ouest, et plus on va être républicain, et plus on va être ouvert sur la République. À Tulle-Sud, un docteur, beaucoup de médecins sont députés à l'époque en Corrèze, François de l'Estable, voilà, qui a été élu en 85. Vous voyez, les gens sont réélus, s'ils ne font pas d'énormes bêtises, en général, ils sont réélus. D'ailleurs, lui sera réélu jusqu'en 1898. Il a été séduit un temps par le boulangisme, et puis il a très vite compris que ça ne menait nulle part. Et il est revenu dans son parti radical. Il faut savoir que Boulanger, avant d'être ce monarchiste, populiste, arriviste, grande gueule et tout ce qu'on veut, qui a failli faire un putsch et prendre le pouvoir en France, même il s'est arrêté à la porte de l'Élysée, était un radical, c'était un républicain radical, donc un homme de gauche, financé par la duchesse d'Uzès, c'est-à-dire quand même par des monarchistes, des royalistes et des gens comme de la droite très conservatrice, mais à la base c'était un homme de gauche. D'où le fait qu'il ait un peu influencé et attiré à lui tant de gens et de députés, d'hommes politiques corréziens qui pensaient qu'il était comme eux un radical, c'est-à-dire quelqu'un de gauche. Et puis en fait, non. Donc après, quand il a montré son véritable jeu, beaucoup l'ont quitté. À Brive-Nord, on a le docteur Michel Labrousse, dont je vous parlais tout à l'heure, républicain, radical, et depuis 85 aussi, fondateur de la République des Cousins. Et puis à Brive-Sud, on a un monsieur qui s'appelle Arnaud Dubois, qui est républicain, un opportuniste, qui est également le maire de Turenne et qui est le conseiller général de Messac. Parce qu'à l'époque, on cumule gentiment. Et puis comme il y a 29 cantons, il y a 29 conseillers généraux, notamment à Bénin, c'est important parce que Michel Mélenac dit, il y a un conseiller général qui s'appelle Louis Brugeil, qui est élu depuis 1871, alors c'est pour ça que j'ai confondu les dates, qui est assez inamovible. Personne ne songe à lui disputer son siège de conseiller général. Lui aussi, pendant un temps, en 88, il est un peu dans le boulangisme, et puis au bout de 6-8 mois, il fait machine arrière, et puis il revient chez les radicaux. À Messac, le lieu de naissance de Mielvac, il y a Arnaud Dubois, qui est conseiller général, élu en 86, qui se fait réélire en 92. Là aussi, d'abord, Mielvac n'habite pas à Messac, il est du Bénin. Normalement, il ne peut pas se présenter, donc il laisse Arnaud Dubois se représenter. Et à Donsnac, vous voyez, Michel Labrousse, qui est député, est également conseiller général, élu depuis 1878. Donc voilà, on n'est pas un département de petits jeunes. Les gens sont réélus gentiment. Et à l'époque, la politique est encore une affaire de notables, hein, des notaires, des docteurs, des médecins. On n'est pas encore dans les gens sortis des classes populaires. Alors, pour accompagner tous ces gens, une chose importante, c'est la presse de l'époque. Le journal le plus ancien qui tourne encore, alors je parle des grands journaux, parce qu'il y avait énormément de journaux qui circulaient, je ne cite que vraiment les plus importants. Le premier, c'est le Conciliateur, fondé en 1849. Donc avant même que Napoléon III fasse son putsch et arrive au pouvoir. Il est basé à Brive, il est bi-hebdomadaire, c'est-à-dire qu'il ne paraît que deux ou trois fois par semaine. C'est un journal conservateur, d'ailleurs qui a traversé tout le Second Empire, et qu'il est devenu républicain par défaut, parce que, à un moment donné, s'il veut continuer à vendre son journal, il faut bien qu'il accepte, qu'il tolère, qu'il... Alors, il ne serait pas contre le fait que la monarchie revienne ou que la la France soit gouvernée plus à droite, mais la mode est à la République et notamment aux opportunistes et aux radicaux. Donc voilà, c'est un journal qui ronge son frein, qui en général est assez neutre, parce que de toute façon, quoi qu'il se fasse, ils ne sont jamais d'accord et ils ne trouvent pas ça bien du tout. L'autre journal, qui est sans doute le journal le plus important, qui est fondé beaucoup plus tard, enfin 6 ans plus tard, c'est le Corrézien. Le Corrézien, il est basé à Tulle, c'est le seul quotidien en Corrèze. Et c'est le plus gros tirage. À l'époque, je crois que le Conciliateur, c'est 2-3 000 exemplaires. Le Corrézien, c'est 5 000 exemplaires. Donc c'est énorme pour l'époque, surtout, en plus, il est quotidien. Lui aussi, c'est un journal conservateur devenu républicain par défaut, dirigé par un jeune journaliste très talentueux qui s'appelle Emmanuel Crofond, qui, lui, est un conservateur pur jus et qui va finir, lui aussi, par épouser un peu la République contraint et forcée, parce qu'il n'a pas, pas le choix, il va continuer à tenir la ligne littorale de son journal. Et puis ça correspond aussi à l'état d'esprit de beaucoup de Corréziens, hein, qui sont assez conservateurs dans les terres paysannes et agricoles. Souvent, il y a quand même des gens assez conservateurs. On est attaché à la terre, on est attaché aux choses qui restent, et on n'a pas l'idéal très révolutionnaire. Hein. Et puis, à partir de 1871, il y a, donc, à partir de la Troisième République, plein de journaux nouveaux qui s'installent, dont un qui reste encore en 92, et qui s'appelle La République de Brive, qu'on appelle La République tout simplement, qui est bi-hebdomadaire lui aussi, un journal républicain, et La République est dirigée par Auguste Le Charbonnier, que voilà, qui est assez âgé déjà. Le Charbonnier, il a 60-65 ans déjà, hein, déjà à l'époque. Donc c'est plus un parrain d'année, c'est pour ça que c'est le parrain de la vie politique corrézienne. Alors, en 1892, à Bénin, au Conseil Général, Louis Brugel a été réélu tout à fait facilement, mais je crois qu'il n'avait pas d'opposant. Donc personne ne s'est présenté contre Louis Brugel au Conseil Général de Bénin. Malheureusement, 6 mois plus tard, Louis Brugel décède. Et là, Mielvac se dit « j'ai ma chance ». Tant qu'il était vivant, je ne pouvais rien faire. Mais là, il est mort. Je vais me présenter comme son fils spirituel. Alors qu'il l'avait déjà combattu avant. Mais je vais me présenter comme son fils spirituel. Et comme il a su se faire, il a su être patient, il a su se faire apprécier du préfet, qui s'appelle Roger, M. Roger, de Michel Labrousse, eh bien, il est désigné par le comité républicain du canton de Bénin, comme candidat à l'élection au Conseil général. Alors, les comités républicains, comme les comités d'une façon générale, il ne faut pas se leurrer, on en montait un toutes les semaines. Alors celui-là, il était plus important parce que c'était l'ancien comité de Louis Brugel, donc il y a vraiment une filiation et on sent vraiment qu'il a pris sa succession. Mais n'importe quel candidat qui se présentait montait un comité et il avait son comité à lui. Comme disait Denis Faugeras, il suffisait d'avoir un bon copain et on avait un comité et on mettait des noms de gens qui n'étaient même pas au courant qu'ils étaient dans le comité, mais ça faisait un comité. On s'embarrassait pas beaucoup d'éthique, apparemment. Et donc, son adversaire est Félix Dussol, qui est le maire de Bénin, et qui se dit « je suis maire, à moi la promotion, je vais me présenter comme conseiller général ». De Paris, où Michel Mielvac avait été très célèbre avec le rapt de Mercedes de Campos, les journaux tout d'un coup se disent « tiens, en revenant, on se souvient du mariage retentissant de M. Mielvac de la Cour, ça y est, qui est baptisé les recherches généalogiques ». Il n'y avait pas Généanet à l'époque, donc c'était difficile, il n'y avait pas Internet, c'était difficile de savoir s'il disait vrai ou pas. Donc de M. Mielvac de la Cour avec Mme Mercedes de Campos, l'orthographe, les choses, etc. C'était pas vraiment leur truc à Paris non plus. Et donc, on explique qu'il a été plébiscité pour devenir candidat dans l'élection au Conseil général. On parle de son château de Sato, vous voyez, comme quoi ils étaient bien informés. Mais en tout cas, on en parle. Et puis, Mielvac a toujours des contacts dans la presse. Il a des contacts parisiens, parce qu'il a vécu longtemps à Paris, il a des contacts dans la presse. Et ça va lui servir d'avoir une presse parisienne qui peut, de temps en temps, dire un petit mot pour lui. Voilà à quoi ressemble Félix Dussol à l'époque. Félix Dussol, qui est avocat. Et alors, Félix Dussol habite une très belle propriété à Fontourcy, qui est au nord-ouest de Bénin, alors que Michel Mielvac, a son château de sabot qui est au sud-ouest, à peu près au est de Bénin. Donc voilà, ils sont chacun à un bout et chacun se regarde. Voilà. Et donc, c'est maintenant que la bagarre va commencer. Parce qu'ils ont déjà été opposés à la mairie dans le combat pour l'élection municipale quelques années plus tôt. Et là, maintenant, c'est le match retour. Et là, Mielbach s'est fait des amis. Et là, ça ne va pas se présenter de la même façon. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont se battre tous les deux, par presse interposée, dans le village, par des affiches, des tracts et tout ce qu'on veut, en se présentant comme chacun étant plus républicain que les républicains. Et je pense qu'il est important de vous présenter ces deux citations qui vont vous dire à quel point ces deux hommes sont foncièrement républicains. Le premier, Mielbach, il a dit en 88, alors qu'il se présentait à la mairie de Bénin, il a envoyé un télégramme d'Arcachon en disant, sans doute comme il se présentait à la mairie, il voulait draguer quelques électeurs conservateurs de Bénin, piquer les électeurs de Dussol. Il a dit, j'ai toujours combattu Marianne, alors Marianne c'est pas une jeune femme, c'est la République, on est d'accord. J'ai toujours combattu Marianne par la plume et l'épée, une lettre de loi manifestant ses sentiments a fait le tour de l'Europe, c'est vous dire que mes croyances seront aussi éternelles que ma personne. Voilà à quel point cet homme est la République incarnée. L'autre en face, c'est quand même beaucoup mieux, il est beaucoup plus républicain. Il a dit, en 92, c'est-à-dire l'année de l'élection, il dit, si jamais nous étouffons la République, Cayenne ne sera pas assez grand pour tous ceux que j'y enverrai. Donc voilà ces deux qui sont fondamentalement des conservateurs dans l'âme et qui, pour avoir un espace politique, ne peuvent aller que sur le terrain républicain, et ça aide à qui mieux pour dire que l'un est plus républicain que l'autre, alors qu'aucun des deux ne l'est fondamentalement. Voilà un peu l'hypocrisie du combat pour le Conseil général du canton de Bénin. Alors, Mielbach, effectivement, se lance en politique comme un chien dans un jeu de quilles, avec un peu l'idée de tout bousculer. Il a de l'argent pour ses campagnes, des soutiens, il connaît le jeu politique pour avoir travaillé à la Chambre des députés, et il est à craindre. Et donc c'est pour ça qu'il obtient beaucoup de soutien, parce que beaucoup sont conscients de son pouvoir de nuisance et ne savent pas encore qu'il ne fera jamais rien et que son pouvoir de faire est beaucoup moindre, bien moindre que son pouvoir de nuisance. Le soutien de tous ceux qui ne menacent pas directement, c'est-à-dire tous sauf Félix Dussol, le maire de Bénin, qui a un adversaire contre lui, et Arnaud Dubois, le député de la circonscription de Brive-Sud, car Mielbach a déjà annoncé qu'après avoir mangé du sol, il croquerait du bois. Et donc, les deux, du bois et du sol, s'associent tous les deux pour lutter contre Mielbach, parce qu'ils sont tous les deux dans la ligne, dans la même ligne de mire du nouveau châtelain de Sabourdine. Au niveau médiatique, la République, elle, puisque Mielbach a été intronisé par le comité républicain, l'ancien comité républicain de Bougeil, la République, qui est, on va dire, l'organe officiel des Républicains, soutient Mielbach. Il ne le soutient pas bien fort, enfin, il le soutient quand même. Elle ou elle le soutient quand même. Du côté des journaux conservateurs, le Conciliateur et le Corrézien revendiquent joyeusement un ennemi, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre. D'abord, ni M. Mielbach, qui nous dit qu'il est républicain, qu'on n'a jamais vu prononcer un discours, qu'on n'a jamais vu faire la moindre proposition ni quoi que ce soit. Donc, le républicanisme de M. Mielbach, on n'en est pas convaincu. Et il n'a jamais rien fait, d'ailleurs même en dehors de la politique, il n'a jamais rien fait autour de lui à part s'occuper de son château. Quant à M. Dussol, il a trahi son camp. C'est-à-dire, il nous a trahis. M. Dussol est un conservateur qui était avec nous, et comme maintenant il veut se faire élire, les irrépublicains. Donc les journaux conservateurs disent Dussol, c'est un traître. Donc entre un traître et un inconnu qui n'a jamais rien fait, on ne veut ni l'un ni l'autre. Alors, ah bah oui, c'est là qu'il faut que j'aille chercher comme... Oui, Mielbach, et d'ailleurs tout le monde à l'époque, se bat à coups de tracts, d'accord ? De longs communiqués qui sont à la fois distribués dans les rues et qui sont publiés dans les journaux. Alors, si vous permettez, je vais aller chercher juste un petit bouquin pour vous lire un petit texte, parce que si je ne lis pas ces petits morceaux savoureux de l'époque, ça perd tout son charme. Le gros.
Non,
celui-là. J'ai un bouquin dedans. Merci. J'aurais dû le sortir. Parce que là, c'est pas très visible. J'en profite pour dire que d'habitude, les papiers et les tracts comme ça étaient imprimés sur une espèce de papier beige, ce qui était vraiment pas beau. Mais Mielbach, lui, était un bon communicant politique, et donc il a commencé à imprimer, comme il avait de l'argent, à imprimer ça sur des papiers couleurs, voire des papiers tricolores, qui étaient quand même du meilleur effet. Alors, très vite, le ton monte entre M. Mielbach et M. Dussol. et on n'en reste pas aux courtoisies. Alors, par exemple, M. Dussol dit « Le triste personnage qui se fait appeler Mielvac de la Cour a l'audace de se dire républicain, il vous trompe indignement. Aux dernières élections du Conseil, il a refusé de voter pour M. Brugeuil, etc. » Ce à quoi Mielvac lui avait... Attendez, est-ce que c'était... Ah ben voilà, on ne se trompe pas. Ça, c'est la réponse. Voilà ce que dit d'abord M. Mielvac, parce que c'est lui qui tire le premier, en général. Mielvac leur dit « Chers électeurs, d'un côté, vous avez la loyauté, le courage, l'enthousiasme pour les causes généreuses, c'est lui, le dévouement, la sincérité, l'ambition de faire le bien, la misère secourue, soit dans la chaumière, soit dans le château, refuge de tous les humbles, qui dit qu'il accueille chez lui les indigents dans son château pour les héberger, pour pas qu'ils viennent dehors, de tous les déshérités du pays, la tranquillité des bruyères abandonnées par devoir. En gros, si j'étais normal, je resterais dans mon château à profiter de la belle vie, mais non, je me dévoue pour vous. Par devoir, par indignation, par amour de justice et de l'indépendance. De l'autre côté, la lâcheté alliée à l'avarice, l'égoïsme allié à la ruse, le cynisme le plus effronté, Tartuffe trônant avec Rodin et Judas, trio macabre gouvernant avec la lettre anonyme, avec le chantage et au sommet de cette immondice posée depuis 20 ans dans le canton de Bénin, l'usure, la sainte usure féodale pour règle et pour moyen. Le choix est facile à faire et il est fait, je le sais, ma confiance en vous date du jour où j'ai reçu vos confidences, où j'ai pensé vos plaies, etc., etc. Tout ça avec des grands élans. De... Et donc, il se balance des trucs à la tronche. Alors, une fois, c'est rigolo, la réponse de Dussol. Monsieur le Vicomte, vous m'avez appelé usurier, juif, que sais-je, parce qu'en plus, Mielvac est un peu antisémite. Bon, à l'époque, la moitié de la France l'est, c'est pas bien joli joli, mais Mielvac se lâche. Hein. Globalement, il n'est pas très... Il n'est pas très correct à ce niveau-là. Juif, que sais-je, le mépris serait suffisant pour vous, mais vous êtes trop hardi. J'ai une fortune bien modeste, mais elle a été acquise par mon travail et celui des miens. Bon, soi-disant, moi, je n'ai pas kidnappé une jeune femme pour son pognon. Se faire délivrer une fortune au moyen d'un faux nom, d'un faux titre, cela porte un nom. Cela porte un nom. Le connaissez-vous, monsieur le millionnaire ? Vivre oisif à l'engrais et se faire des rentes avec ses grâces de bellâtre, cela porte un nom. Le connaissez-vous, monsieur le vicomte ? Et vous osez parler d'argent, du sale argent, etc. Bon, alors, il y en a plein de bouquins, donc je vous le passe. Mais le ton monte, ce sont des insultes et des insultes. Alors, une fois c'est rigolo, deux fois c'est rigolo. Il faut savoir que c'était tous les jours, tous les deux jours, quand le journal paraissait, tous les deux, trois jours, les tirages en période électorale, il y en avait un petit peu plus. Au bout d'un moment, ça devient vite écœurant. Donc, ça n'amuse que ceux qui... tous ceux qui les écrivent, et puis au bout d'un moment, bah, ça amuse plus grand monde, surtout beaucoup de lettres à un moment donné deviennent anonymes, c'est-à-dire beaucoup de textes ne sont pas signés. On ne sait pas qui a écrit ça, c'est publié dans le journal, mais ce n'est pas signé à la fin. Et en général, ça tape assez méchamment. Malgré ce combat, Mielvac est élu dans la circonscription de Bénin le 3 avril, avec une avance assez confortable. 1147 voix contre 610. Mais bah, dès le lendemain, il se présente au Conseil général à Tulle hein, pour aller siéger. Et là, il est accueilli assez mollement. On l'accueille d'un geste assez distrait. En fin de discours, on lui demande juste de se montrer digne de son prédécesseur Louis Brugeuil, et dont on a fait des éloges et des obsèques assez incroyables, parce qu'une fois que les gens sont morts, c'est bien connu, ils sont tous vraiment fabuleux. Alors, Mielvac avait promis aux gens du canton de Bénin à boire et des réjouissances et des agapes en cas de victoire. Et alors, effectivement, les cafés sont ouverts, le vin coule à flot, les alcools et tout ce qu'on veut, et les cafés. Moyennant quoi, les cafetiers du canton de Bénin lui ramènent à la fin une note de 30 000 francs. Quand je vous ai dit que le salaire annuel d'un ouvrier, c'était 300 francs, prenez aujourd'hui un SMIC, mettons, qui fait 1002 en net, multipliez-le par 12, vous voyez, ça fait, mettons, 15 000 euros pour 100 ouvriers, vous voyez ce que ça fait, 1 500 000 euros de notes de café, il faut en boire des cafés, même si la conversion est un peu exagérée, ça fait quand même pas mal. Hein. Et Mielvac paye. Parce qu'il n'a pas le choix. D'abord, il a les moyens. Enfin, sa femme a les moyens. 30 000 francs, c'est le montant que le contrat de mariage lui accorde comme revenu pour faire vivre le ménage. Donc, c'est son revenu annuel. Après, il puise dans le capital, évidemment. Sa femme lui débloque de l'argent. Mais 30 000 francs, c'est ce que Mercedes lui donne par an. C'est son argent poche ou c'est sa semaine, je ne sais pas, pour faire manger tout le monde et pour faire vivre, pour payer les domestiques, etc. Donc, c'est quand même une belle somme. Hein. Il n'avait pas d'argent. Donc voilà, plutôt qu'il puise dans le capital, il avait contrat en séparation de biens, il n'avait aucun droit sur le capital, surtout qu'ils avaient un enfant, donc c'était pour Mercedes et pour leur fille, mais il avait quand même besoin d'argent pour vivre, donc voilà, elle lui donnait 30 000 francs par an, et puis sans doute un peu plus pour payer ce dont il avait besoin. Alors une fois qu'il est élu au conseil général, Mielvac a en ligne de mire l'élection législative qui a lieu 4 mois plus tard. Donc il se dit, je vais faire coup double, on va faire un strike, comme on dit à bowling. Et donc, il se présente immédiatement à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, enfin en tout cas à l'élection législative, pour devenir député de la Corrèze sur la circonscription Brive-Sud. Cette fois-ci, son nouvel adversaire, c'est Dubois. Il l'avait dit avant, donc la presse n'est pas surprise, tout le monde sait qu'il va y avoir un nouveau contrat, un nouveau combat, non pas fratricide, mais en tout cas entre des ennemis jurés. Entre Dubois, qui est le député sortant, qui est le maire de Turenne, et le conseiller général de Messac. Mielvac, lui, qui a besoin d'un espace politique, comprend que les radicaux, c'est un peu étroit, surtout qu'on commence à voir comment ils fonctionnent, en payant à boire, avec des insultes dans son journal. Donc tout ça, quand même, commence à sentir un tout petit peu le... pas le rossi, mais à sentir un peu le sentir un peu fort, donc il y en a beaucoup qui commencent à lui fermer la porte, et donc comme il a besoin d'un espace politique, il se proclame socialiste, et c'est parti pour paysans mes amis, ouvriers mes frères, etc., qui balancent à tout bout de champ. Il s'engouffre dans les maladresses de Dubois, perçu comme pédant, distant, inefficace, et panamiste. Alors panamiste, c'est quoi? On est en plein début du scandale du Panama, et il y a un paquet de députés qui commencent à être un peu inquiétés avec le scandale du Panama, et malheureusement, Arnaud Dubois a voté avec les députés panamistes, et donc Mielvac le met dans le même sac. Dubois, par exemple, il y a une grève des ouvriers du chemin de fer à Brive, déjà, vous voyez, on n'en sort pas, il y avait déjà une grève des ouvriers de la SNCF à Brive, et donc Dubois débarque de Paris, les députés, c'est normal qu'il aille à Paris, les députés, il débarque à la gare de Brive, il sort du train, on lui dit il y a une grève, il y a bon, il y a une grève chez moi. Alors forcément, Mielvac s'engouffre dans le truc en disant ben voilà, député, il y a une grève chez lui, c'est même pas qu'il y a une grève chez lui. Qu'est-ce qu'il fait, Mielvac? Il a de l'argent, il donne de l'argent aux grévistes. Il les invite à bouffer au relais, machin, au restaurant bidule, et puis il les reçoit au château. Et puis il le fait bien savoir qu'il a reçu les ouvriers grévistes, qu'il leur a donné de l'argent, qu'il en a reçu certains, etc., qu'il les brosse dans le sens du poil. Et puis il se fait aider par un bras droit, parce que Mielvac, il fait de la politique exactement comme il tombe amoureux, c'est-à-dire avec une bande de complices. Et il a un bras droit qui s'appelle Noël Faux, qui est un ouvrier mécanicien, socialiste pur jus, qui y croit. Et donc il va se battre comme pas possible pour aider Mielvac. Et il n'est pas impossible que cette grève de Noël Faux, par exemple, qui est un nouveau mécanicien, en soit à l'origine, pour permettre justement à Mielvac de soutenir les grévistes, etc., et de mettre Dubois en porte-à-faux. Et comme Dubois, c'est un binoclard, il est pas très grand, il n'est pas très beau, il a pas beaucoup de charisme, alors que Mielvac, il est grand, il fait 1m78 pour l'époque, c'est assez grand, il a du charisme, c'est un bel homme, même un bel âtre, on dit. Donc il en jette. Alors La République, elle, le journal, a été échaudé. Ils savent maintenant qui est Mielvac de la Cour. Donc La République, qui est l'organe officiel, et puis surtout le charbonnier au-dessus, qui est le patron de La République et qui est le sénateur, se dit, si on n'arrête pas Mielvac, il va vouloir mon poste. Il y a des articles parisiens qui le voient déjà à l'Élysée, Mielvac. Alors, il y a un peu de second degré, un peu d'humour, mais enfin, on lui promet quand même un avenir brillant et rapide. Donc La République soutient Dubois, parce qu'il sent que ça commence un peu à suffire. Le conciliateur, lui, veut la défaite de Dubois, donc il dit, entre deux mots, il faut choisir le moindre, on va choisir Mielvac. Le Corrézien, lui, est neutre, il est toujours dans son mini en disant Dubois n'a rien fait pour la Corrèze, il est nul, il fait rien. Mielvac, on sait qui c'est, donc on envenime l'un ni l'autre, on aimerait bien un troisième homme. Ce qui est rigolo, c'est quand il y a un troisième homme qui se déclare, qui ne restera pas longtemps et qui n'aura aucun impact, la Corrèze va être la première, le Corrézien va être le premier à lui taper dessus. Donc ils appellent un troisième homme en disant on en voudrait un qui soit bien. Il y en a un qui est bien, qui est juge, il s'appelle Janac. Il s'appelle Janac et il est juge à Tulle, William Janac. Et le Corrézien arrive, non, mais qui est ce Jarnac, etc. Enfin, donc le gars, il a compris, il rentre chez lui, c'est terminé, et il déclare forfait. Et donc, un nouveau journal à ce moment-là, né à Brive, c'est une franchise. Il y a un journal qui s'appelle La Croix, qui existe à Paris depuis très longtemps, dans le journal national, et bien naît La Croix de la Corrèze, c'est-à-dire le journal de La Croix, mais pour les Corréziens. Voilà. Qui naît. Alors c'est important parce que à l'époque, on est avant la loi de séparation des Églises et de l'État, et les votes des catholiques sont extrêmement importants parce qu'on est quand même dans un pays où à l'époque il y a quand même beaucoup de religions, et Mielvac en plus lui est plutôt proche des milieux religieux. Sauf que comme il est socialiste, il ne peut pas officiellement les soutenir. Donc il va aller leur expliquer par derrière que, ou discrètement, qu'il les adore, ce qui est vrai, mais qu'il ne peut pas les soutenir officiellement, parce qu'il est socialiste, mais qu'une fois qu'il sera élu, il ne fera rien contre eux. On est en plein dans le jeu de la politique, je te le dis, je ne le ferai pas, mais je ne te dis rien, je ne dis rien, tu votes pour moi, et je te trahirai quand même, mais je ne te le dis pas tout de suite, tu le verras. Mais, encore là, on est dans le jeu de la politique, c'est presque ce que Mielvac fait de plus noble, c'est-à-dire que ce n'est pas joli joli ce qu'il fait avec les catholiques de la Croix de la Corrèze, en gros, bien comme il faut, mais c'est du jeu politique par rapport à ce qu'il fait d'habitude, des insultes et des choses comme ça. Parce que la campagne législative est exactement la même que la campagne pour les cantonales. Hein. Ça balance dans tous les sens dans les journaux. Chacun a son clan et son camp, et chacun a ses amis, chacun a ses équipes, et ça balance dans tous les sens. Alors, quelles sont les trois armes de Mielvac pour gagner ces combats ? La première, c'est la séduction. L'homme. Ensuite, il est châtelain, il se dit vicomte, etc. Et à l'époque, ça impressionne beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont le respect pour l'aristocrate, l'ancien régime, le truc, le machin, même si tout est faux, même si c'est marqué dans les journaux que tout est faux. Déjà à l'époque, on lit des choses et on n'y fait pas attention. On vous le dit, et ben non, les gens, ils quand même disent, bah oui, non, mais quand même, il est vicomte. Mais non, on vous dit qu'il ne l'est pas. Ah oui, mais quand même, monsieur le vicomte. Et voilà. Et ben, on ne peut pas y faire. Et puis, il sait communiquer. C'est un grand communicant. Comme tous les imposteurs, comme tous les escrocs, il sait mettre les gens dans leur poche, et puis il les balade, et puis il leur fait croire qu'il les fait rêver. Quand il se présentait à la mairie de Bénin, il leur a fait croire qu'il avait changé tous les chemins, et avec son argent propre. Et construire des ponts avec son argent propre, etc. Il y en a qui l'ont cru, quand même, quelques-uns. La deuxième arme, c'est la corruption. On a vu qu'il ouvrait les cafés, etc., qui paye les grévistes, qui balance de l'argent, et donc tous ceux qui ont besoin d'argent, qui viennent lui demander un billet, il donne à condition que. Et c'est de la corruption à un niveau élevé, parce qu'il a dans chaque village de la circonscription de Brive-Sud un employé à lui qui a l'enveloppe et qui est chargé de distribuer les subsides à ceux qui vont faire en sorte qu'il soit élu, etc. Donc c'est pas juste un gars qui balance un billet comme ça, c'est quelqu'un qui a une organisation de corruption dans chaque village. Chacun a son enveloppe, son budget, etc. Et chacun distribue. Chacun est responsable après derrière de ce qu'on va retrouver dans les urnes au niveau du dépouillement. Et la troisième arme de Mielvac, c'est l'intimidation. L'intimidation par deux moyens. D'abord, son journal. Parce qu'à l'époque, quand on retrouve son nom dans le journal en disant « toi t'as fait ci, toi t'as fait ça », que ce soit vrai ou faux, c'est terrible à l'époque pour la réputation des gens. La deuxième arme, c'est que Mielvac a toujours sa bande de complices, et parmi ses complices, il y a, vous connaissez le sac du général de Gaulle, il a lui une bande, c'est l'équivalent, qui s'appelle la bande des tricards. La bande des tricards, pourquoi des tricards? Parce qu'ils ont des tricks. Des échalas, des tricks, des barres, et ça se bat partout dans les villages. Les jours de foire et les jours de réunion électorale, etc., ça castagne. La gendarmerie montée est obligée d'intervenir, il y a des blessés, des gens blessés à la tête, des coups de poing, des pierres qui se jettent, des femmes, des hommes, tout le monde se tape là-dessus. Mielvac a une bande d'une quinzaine de personnes, beaucoup de Syriaques, certains de Bénin, enfin d'un peu partout, des hommes pas très recommandables, qui ont des passés criminels, on préfère pas trop regarder, mais enfin des gens qui, comme on dit dans les tontons flingueurs, ont un pouvoir tranquillisant. Vous voyez, l'équipe des Tricards est menée par un géant qui s'appelle Pechamiel, ça c'est son nom d'état civil, qu'on appelle Barbe de Fer. C'est un géant qui boit de Stentor, qui a une barbe jusque-là, et qui, quand il intervient dans une réunion électorale, sait faire respecter, ou soit faire respecter le silence quand Mielvac parle, ou plutôt semer la zizanie quand c'est Arnaud Dubois qui parle. Le but étant que l'adversaire politique ne puisse jamais s'exprimer tranquillement dans ses réunions politiques. Ou qu'on lui fasse croire que Mielvac va venir à tel endroit, alors du coup le candidat y va, et puis en fait il n'y a personne, et en fait Mielvac fait une réunion à 10 km de là en disant « Vous voyez, il n'est pas venu Arnaud Dubois, il ne veut pas débattre avec moi », alors qu'en fait il lui a fait croire que c'est des coups bas de partout, et puis avant que les réunions commencent, et ben, les Tricards arrivent en voiture, en voiture à cheval, ils arrivent à 10, 12, et ils commencent à crier, ils commencent à taper, ils commencent à faire le ménage. Et en général, Mielvac n'arrive dans un village que quand ça a été nettoyé. Alors, Mielvac a besoin, pour se faire élire, d'un support. On a vu que la République, le journal La République soutenait Dubois, que les journaux conservateurs n'étaient pas très favorables à Mielvac. Il y en a un qui est favorable au conciliateur et favorable à Mielvac par défaut. Mais c'est un soutien par défaut, c'est jamais un soutien très, très utile. Et donc Mielvac dit « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Et donc il décide de créer, avec l'argent de sa femme, son propre journal. Il sort que ça coûte très cher, parce que c'est entièrement déficitaire, un journal comme ça. Il fait comme beaucoup de d'hommes politiques corréziens. Il faut savoir qu'il y a énormément de journaux qui naissent à l'époque, des fois simplement pour le temps d'une campagne. Il y a des journaux qui naissent pour 3 semaines. Et enfin, qui naissent et qui meurent au bout de 3 semaines. Il y en a qui meurent au bout de 2 mois. Parce que la campagne est passée et que ça a servi à faire la propagande, etc. Et puis après, bah, c'est terminé. Il y en a qui durent, et puis il y en a beaucoup qui meurent. Et donc Mielvac, avec son argent, se dit, ben voilà, je vais créer un nouveau journal. Alors ça c'est la deuxième mouture. Le premier s'appelle L'Avenir républicain de Brive. Et puis il s'appelle ensuite L'Avenir républicain de la Corrèze. Finalement, il s'appellera L'Avenir tout court. Mais voilà, c'est un journal qui paraît 2 ou 3 fois par semaine, et dans lesquels ben, on retrouve, vous voyez comme ici, aux électeurs, la première circonscription de Brive. C'est un journal qui naît le 14 juillet 1893, donc...
Au moment de l'élection.
Comment ?
Au moment de l'élection.
Au moment de... Ah ben, oui, les élections sont le 20 août. Donc vous voyez, le journal naît le 14 juillet 1993, donc il a un mois, mais à l'époque on ne s'occupe pas tellement des élections, pas tellement avant, quoi. Donc voilà, il crée son journal avec son argent, grand renfort de publicité. Il fait venir une imprimerie toute neuve à Brive. Une imprimante, enfin.
Une
rotative. Il fait venir de Paris, un truc tout neuf.
10 rue de Corrèze.
Oui, 10 rue de Corrèze. Et donc c'est pas loin. Voilà. Et donc, alors au début, Mielvac n'apparaît pas là. Dans la deuxième mouture où on voit directeur politique Mielvac de la Cour, au début il prend un peu les gens pour les idiots, mais c'est Mielvac. Donc au début, il n'apparaît pas, et on découvre au bout du deuxième numéro que ce journal est fondamentalement séduit par les idées de ce jeune candidat républicain qui s'appelle Mielvac, qui, ma foi, a des idées extraordinaires. Alors on voit son nom nulle part, et puis très vite, on commence à le voir partout, et puis très vite, c'est des insultes, et puis voilà. Donc du coup, on a 2 journaux ennemis, La République qui soutient Dubois, L'Avenir qui soutient Mielvac, qui appartient à Mielvac, et entre les deux, le conciliateur et le corrézien qui font tampon. Et donc, pour faire mes recherches, ben, j'ai lu les 4, les 2 extrêmes et les 2 du milieu pour savoir la vérité et pour savoir ce qui s'était vraiment passé. Alors, la Corrèze est devenue célèbre parce que cette phrase-là du corrézien, on la retrouve partout dans la presse parisienne, on la retrouve aussi à propos de Brive. C'est-à-dire qu'on disait que Brive était à la Corrèze ce que la Corse était à la France. Bénin, c'est pareil pour Bénin. On dit à Bénin qui est à Brive ce que la Corse est au reste de la France. D'Aluste commence rien moins que courtoise. Un fonctionnaire, donc alors un fonctionnaire qui était du camp de Dubois soutenu par le préfet. Donc la préfecture soutient le candidat officiel de la République et Dubois. vous avez Mielva qui arrive en franc-tireur pour tout balancer, tout bousculer, changer l'ordre établi, etc., qui se dit socialiste, pour renverser. Et donc, un fonctionnaire partisan de tout candidat de l'administration et un mandataire du peuple, victime de cette même administration pour s'être attaché à M. Mielva et à sa fortune, ont échangé des propos frappants. Alors là, c'est la façon dont un journal neutre l'exprime. Je vous passe la façon dont La République exprime les choses d'un côté, dont l'avenir exprime les choses de l'autre. Mais les mots ne sont pas choisis. Les noms d'oiseaux sont fréquents. Voilà. Et c'est à longueur de page. Au bout d'un moment, moi j'ai tout lu, au bout d'un moment il y en a marre. J'en ai pas mis beaucoup dans le bouquin, j'en ai mis quelques-uns pour faire rire, et puis à un moment donné j'ai arrêté parce que j'ai dit c'est insupportable. Et même, ça rend Mielva pas sympathique. Parce que finalement, on se rend compte qu'il n'y a aucun débat politique là-dedans. Ce n'est qu'un combat d'insultes et d'outrances, et c'est à celui qui tue à l'autre le premier. On est dans un duel entre deux hommes, on n'est pas dans un combat entre deux visions politiques. Alors, celui qui fait le premier faux pas, le premier vrai grand faux pas, c'est La République, qui révèle le passé de Mielvac. L'enlèvement de Mercedes, de Campos, le faux titre, le faux nom, etc. Il ne révèle rien parce qu'on le savait déjà. Et tout est vrai. Mais Mielvac avait prévenu et il avait dit « Si jamais vous touchez à ma famille ou à ma vie personnelle, je veux bien qu'on se batte sur le terrain politique. » De toute façon, il ne dit rien sur le terrain politique, donc on ne peut pas l'attraper sur le terrain politique. Il n'y a pas une demi-idée. Ou une fausse demi-idée, comme ça, en début de première page, et puis après, il n'y a plus rien. Il avait dit « Je vous préviens. On se bat sur le terrain politique, si vous touchez sur le terrain personnel, je taperai deux fois plus fort. » Et Mielva, on sait qu'il aime se battre en duel, on sait qu'il est colérique, et on sait que quand il promet quelque chose, en général, il le tient. Et donc, Mielva révèle le passé de Dubois. Comme quoi, lui aussi a fait un mariage, pas forcément tout à fait honorable, dans des conditions, ceci, cela, et alors, on tombe dans les égouts. Un petit extrait de texte qui est rigolo. Voilà ce que dit Dubois. Arnaud Dubois. Voilà ce que dit pardon Mielvac à propos d'Arnaud Dubois. Arnaud Dubois, le candidat officiel de la circonscription de Brive-Sud et son complice du sol, l'Oreste et le Pilade de l'écume opportuniste, ces deux frères siamois arrivés ensemble sous le pseudonyme de Vérax, parce qu'on n'écrit plus sous son nom dans les journaux depuis Belluret, on écrit sous pseudonyme. C'est ou non signé ou sous pseudonyme. On l'a pour ennemi, à propos d'une élection purement politique, de faire des incursions dans la vie privée de M. Mielvac de la Cour. Oui, M. Arnaud Dubois, dont le toupet n'a d'égal que la pleutrerie, ose écrire ou faire écrire par son valet de plume que pour briguer le suffrage des électeurs, il faut un passé qui soit garant de l'avenir. Votre méchanceté vipérine vient de vous faire commettre, M. Dubois, une imprudence et une impudence que vous regretterez amèrement. Nous nous étions bien promis à l'avenir, dans nos polémiques électorales, de ne mêler en rien la vie privée à la vie publique et surtout de laisser en dehors de nos luttes de presse ces deux choses sacrées et saintes, la femme et le foyer. Vous avez odieusement rompu le pacte, tant pis pour vous. En tirant le premier, vous nous dégagez de notre promesse et puisque vous avez recours à de pareilles armes, nous mettons aussi flamberge au vent. En garde, Vérax à tête de Janus, à nous la riposte. Et après, il déballe. Voilà. C'est un exemple. Il n'y en a pas 10, il n'y en a même pas 100, il y en a beaucoup plus, parce que c'est tous les jours pendant la campagne. Les journaux de l'époque font 4 pages. Donc c'est une feuille pliée en deux, une grande feuille pliée en deux. La quatrième page, c'est que des pubs, il faut bien vivre. Donc il y a 3 pages, quelques petites annonces, etc. Mais ces 3 pages, un vague éditorial plus ou moins politique, et le reste, c'est un témoin de Messac nous dit que, un témoin de Tulle, un témoin de ceci, un témoin de Brive, un ami de, un vrai républicain de, etc. Et ça tape, et ça tape, et ça tape. Et les vrais républicains, on les trouve des deux côtés, ils ne sont pas plus républicains, et ça se dénonce. Comme tu sais, c'est des querelles de village. Ah, il a fait ça, alors je me dénonce, il a fait ça, il a volé ci, il a fait ça, et il s'est fait chourer, ben, bref. Mielvac, comme il n'en est pas à son coup d'essai dans les petites saloperies, commence à avoir des petits soucis judiciaires et plusieurs procès qui lui tombent dessus, au moment le plus opportun, évidemment, en pleine campagne. Notamment le procès d'une dame qui s'appelle Estelle, je crois, Bruno de Laborie, elle s'appelle Bruno de Laverie comme Mielvac s'appelle Mielvac de la Cour. Hein. au départ, elle s'appelle Laborie, elle épouse un mec qui s'appelle Bruno, et donc elle se fait appeler Bruno de Laborie. D'ailleurs, son fils, je crois, sera un aviateur célèbre qui se fera appeler lui aussi Bruno de Laborie comme sa mère. Son nom, enfin, si vous cherchez dans Google, c'est un gars assez célèbre, un des premiers aviateurs, et donc qui a emprunté le nom de sa mère, qui est un nom usurpé. Et cette jeune femme, Mielvac, lui avait signé ce qu'on appelle un bon de commission, une reconnaissance de dette, au moment de l'enlèvement de Mercedes des Campos, en disant: en reconnaissance de l'aide décisive que vous m'apportez, sans laquelle je ne réussirais pas à épouser Madame de Campos, je vous octroie la somme de 200 000 francs. Mmh. Oui, c'est pas rien. Ah bah, il n'allait pas à moins de 100 000 francs, bien vrai. Et puis on a signé un paquet, des comme ça. Et donc, la dame Bruno de Laborie, à un moment donné, lui a dit: mais bon, bah, là, t'es marié, le pognon. Elle dit: ah, mais ça va pas tarder. Elle a dit, mais alors, elle est revenue un peu à la charge un peu plus tard, et puis il a dit: alors là, je peux pas, là, tout de suite, mais reviens dans quelques mois, et tu l'auras. Et puis il l'a fait terminer. Finalement, il lui a jamais rien payé, donc à un moment donné, elle s'est énervée, elle est allée voir la justice, notamment la justice de paix de Bénin, pour commencer. Et puis, Mielvac l'a envoyé balader, donc elle en a parlé dans la presse, donc ça a commencé à se savoir dans la presse, qu'il avait signé des reconnaissances de dette pour son enlèvement, etc. Et il n'en avait rien à faire, et donc il a dit: Ce billet, je m'en fous, j'ai signé ça pour me défaire d'une dame qui était collante. Et voilà. Donc il n'a aucun scrupule, il s'en fiche complètement. Et en plus, quand on regarde les bons de commission qu'il a signés, il les a signés vicomte de la Cour. Alors, aller en justice réellement pour demander le paiement d'un bon de commission qui reconnaît la complicité pour un enlèvement en vue d'un mariage signé par un mec sous un faux nom, il faut quand même y aller pour avoir un espoir de gagner quelque chose en justice. Enfin, bon, il y avait quand même une grosse somme en jeu, elle a dû se sentir trahie, au moins elle est allée voir la presse pour que, voilà, qu'au moins Mielvac ne s'en sorte pas complètement impunément et que les gens sachent ce qu'il avait fait. Il y en a eu d'autres, des procès, il y a eu un procès avec un cafetier de Brive qui s'appelait Cessac, qui était le plus grand supporter de Mielvac, et puis il s'est fait retourner par la bande du sol, du bois, etc. Et donc il a dit: Mielvac ne m'a pas payé les 700 francs de boisson qu'il me doit. Bon, quand on sait ce que Mielvac dépense, on sait que pour son élection législative, il a dépensé à peu près entre 200 et 250 000 francs. Là où on dit qu'à l'époque, l'élection d'un député coûte 3 000 francs. Et lui, il a dépensé entre 200 et 250. Donc il a balancé l'argent. 700 balles, franchement, Mielvac qui s'en foutait. Donc simplement, il y en a un qui s'est retourné, et il a dit: bon, bah, ok, tu t'es retourné, t'es 700 francs, tu vas t'asseoir dessus. Donc le gars lui a fait un procès, qui s'est terminé par un non-lieu, parce qu'il ne pouvait pas prouver que Mielvac lui avait effectivement dit que, etc. Même si ça se savait, parce que dans notre pays, tout se sait. Enfin, je veux dire, Brive, c'est pas grand. La Corrèze, déjà, c'est pas grand, mais Brive non plus, surtout à l'époque. Donc tout le monde savait très bien, quand c'est ça qu'il a défendu Mielvac, c'était son bras droit ou son bras gauche, enfin, il était toujours derrière lui, etc. Tous les syndicalistes étaient chez lui, ça buvait dans tous les sens, et puis à un moment donné, il s'est retourné, et bon, ben voilà. Donc, il commence à y avoir du bruit médiatique et du bruit judiciaire autour de la candidature Mielvac, qui est quand même un communicant hors pair. Voyons où elle les affiche, rose, alors il parle pour l'élection législative aux électeurs du canton de Messac, il en balance partout, des affiches tricolores. Alors, celle-là est dans ce sens-là, c'est bon pour l'époque, hein, c'est rare. Hein. À l'époque, on est sur du papier belge, vous savez, genre papier toilette de notre enfance, le papier un peu qui frotte là. Et ben, alors lui, il est sur du papier tricolore. Des fois, on a les bandes tricolores horizontalement plutôt que verticalement. Enfin, il avait plein d'affiches différentes. Et encore, celle-là, je l'ai retrouvée aux archives de Tulle, mais il devait y en avoir d'autres qui n'ont pas été conservées. Donc, et les journaux parisiens, quand les journalistes sont venus enquêter, ont dit que quand on arrivait à Brive, on savait qu'on était dans le pays Mielvac 10 minutes avant d'arriver, parce que les murs étaient couverts de partout d'affiches tricolores de Mielvac, de partout, des sur les murs, des partout aux pylônes, aux poteaux, partout, il y en avait. Alors, ben, je vous ai déjà parlé de la bande des tricards et des petits échauffourés. J'avais un petit texte publié par le Petit Centre. Hier, jour de foire à Beaulieu, M. Mielvac et ses gardes du corps s'étaient donné rendez-vous à l'hôtel de Bordeaux, où il y avait table ouverte toute la journée. On offrait à tout venant café, bière et liqueur. M. Mielvac faisait distribuer dans toutes les maisons son journal L'Avenir. À la suite de l'attitude de ces camelots, plusieurs discussions se sont engagées, notamment une discussion des plus sérieuses devant l'hôtel des voyageurs, mais les hommes du châtelain avaient eu le soin de se munir de gourdins. Une véritable bataille s'en est suivie, le sang a coulé et le dénommé Duport aîné a été passablement maltraité. J'aime bien l'idée de l'époque, c'est gentil. On dit des horreurs, mais on le dit gentil. Heureusement, monsieur le juge de paix de Beaulieu est intervenu assez tôt avec l'aide de la gendarmerie. Sans cette intervention, de graves accidents auraient pu se produire. Et après, ouais, j'ai aussi une petite dialogue en patois entre deux disciples de Mielvac qui reconnaissent qu'ils étaient venus pour empêcher la réunion de se tenir, etc. Or, il se trouve que Dubois n'était pas venu ce jour-là, donc ils n'ont rien empêché du tout parce qu'il n'est pas venu. Clairement, les tours de passe-passe et les saloperies, elles étaient valables des deux côtés. C'est Mielvac qui a commencé, c'était Mielvac le plus fort et le plus riche. Donc le plus fort parce que le plus riche, il pouvait payer plus de gens, mais Dubois n'était pas en reste. Parce qu'il avait derrière lui la préfecture, il avait derrière lui tout le clan politique républicain officiel de la Corrèze. Donc c'était le pouvoir établi. Dubois avait derrière lui tout le pouvoir établi. Donc on pourrait croire que le combat était déséquilibré. Mais bon, Mielvac s'est donné à fond. Et le 20 août, à Brive, Mielvac de la Cour est élu. Il bat le député sortant Dubois par 8046 voix contre 6327. Et donc victorieux, il accorde une interview savoureuse à l'Écho de Paris, que je ne vais pas vous lire parce qu'elle est très longue, mais elle est très intéressante parce qu'elle est en deux parties. D'abord, le jour de son élection, ou le lendemain, il était un dimanche, le lundi matin, Mielvac arrive triomphant au Conseil Général. Et pour le recevoir avec l'honneur qui lui est dû, on lui explique que son élection de la veille fait déjà l'objet d'une procédure d'invalidation, c'est-à-dire et d'une procédure de contestation. Donc ça l'agace, et donc il se souvient que tout d'un coup il avait rendez-vous, pas chez le dentiste, mais qu'il devait partir, et donc il quitte précipitamment la session du Conseil Général, qui était important, parce que c'était pour discuter du budget, etc., sur lequel Mielvac ne connaissait rien, mais il dépensait tant qu'il y avait de l'argent. Et donc Mielvac se tire du Conseil Général de Tulle et part à Merlébains. Merlébains, c'est la côte d'Opale, c'est pas juste la porte à côté. De là à penser qu'il va se planquer et qu'il va se cacher, il n'y a pas loin. C'est-à-dire que Tulle lui a expliqué « Ok, t'as été élu hier, mais on va pas te rater. » Donc il dit « Ok, j'ai rien à faire au Conseil Général. » Il part se cacher et il monte là-haut, avec un journaliste de Paris qui fait venir, de l'Écho de Paris, à qui il accorde une interview. Et quand on lit l'interview, on se dit « Mais c'est pas possible, ce journaliste, c'est de la housse ou quoi ?» Il lui pose aucune question importante, il lui donne de l'eau à son moulin, et Mielvac fait le beau. Il dit « Ah oui, j'ai eu beaucoup de chance, je suis extraordinaire, etc. Enfin bon, puis je vais continuer. » Bon, on se dit, ce journaliste, bof, bof. J'imagine que c'était un deal pour avoir une interview exclusive, parce que l'interview est reprise dans la presse, dans la France entière. J'ai retrouvé des journaux de la France entière qui reprennent la même interview. Il n'y en a eu qu'une, et à l'époque, on reprenait, comme aujourd'hui à la télé, vous avez Canal+, qui reprend les images de France Télévisions, etc. Bon, ben là, c'est pareil, il y a une exclue. J'imagine que pour avoir l'exclu, il fallait que l'interview soit un petit peu complaisante. Donc le gars fait son interview et il termine son article. Mission accomplie, j'ai respecté le deal. La semaine d'après, il publie un autre article en disant « Voilà, la semaine dernière, j'ai fait une interview de M. Mielvac qui vous a donné son point de vue. Maintenant, je viens en Corrèze. Très beau pays, chatoyant, les châtaigniers, les trucs, les machins. Je vais à Brive. Quel pays superbe, on y mange très bien. Et là, je vais interviewer les Corréziens. » Et là, il démonte Mielvac en interviewant les gens d'ici pour comprendre comment Mielvac a fait pour se faire élire. Et donc, d'un côté, il a fait une interview complètement complaisante, et de l'autre, il a fait un compte-rendu qui remonte exactement la vérité. À la fois, il a respecté son deal, et en même temps, il a dit la vérité, ce qui finalement est pas mal. Donc voilà. Alors c'est là où les problèmes commencent, c'est qu'on lui a annoncé qu'il y avait des mesures de contestation, donc il y a une commission d'enquête parlementaire qui est nommée, ils sont une petite quinzaine, et ils commencent à poser des questions, à regarder, chacun vient... Et le rapport d'un député qui s'appelle Boucher, présenté devant le bureau des opérations électorales, puis à la tribune de l'Assemblée, est assez clair. Il évoque des diffamations et outrages, des violences et intimidations, des promesses, largesses et corruption. En gros, tout ce qu'il ne faut pas faire, Mielvac l'a fait sur toute la ligne. Donc, Alors, je vous laisse lire la petite conclusion qui dit qui est assez fallacieuse, parce qu'on dit que Mielvac a cassé la gueule aux partisans du bois sans qu'il y ait de provocation de l'autre côté, ce qui est absolument faux. Dans les villages, il suffisait qu'il y en ait un qui voit l'autre pour que chacun se casse la gueule. Et c'était des bagarres générales dans les rues, donc on ne peut pas dire que la faute se vienne de l'un ou de l'autre. Peut-être que Mielvac a commencé, mais globalement, à la fin, c'était le pugilat général. Donc, alors ils ont fait une deuxième enquête pour être sûrs. Ils sont venus en Corrèze. On a accusé les députés de trop bien manger et de trop faire la sieste. Mais en fait, ils sont repartis comme ils étaient venus. L'invalidation de Mielvac était acquise dès le départ. On savait dès le départ qu'il allait se faire invalider. Donc, ils ont rajouté quelques fraudes électorales. Et le 11 mai 1894, vous voyez, il faut quand même 8 mois pour qu'il soit invalidé. Ça prend un peu de temps. Finalement, l'élection de Mielvac, l'invalidation est décidée à l'unanimité. Alors, on dit que l'unanimité, il y a 373 présents. Tous ceux qui auraient pu voter contre l'invalidation apparemment ne sont pas venus. Donc, en tout cas, tous les présents ont voté pour l'invalidation, sauf un. Apparemment, on dit qu'il y a une voix contre. Et comme Mielvac n'avait pas le droit de voter, puisqu'il était en cours d'invalidation, j'ai une petite idée, je pense qu'il y a Mielvac avait un ami fidèle à l'Assemblée, qui était son complice de l'enlèvement de Mercedes, qui était député lui aussi, qui s'appelait Luce de Casablanca, en Corse, qui lui aussi a fait l'objet d'une procédure d'invalidation, mais lui fait partie d'une grande famille corse, et donc l'Assemblée n'a pas osé l'invalider lui, un Corse intouchable, en gros. Et donc, M. de Casablanca s'est offert le luxe, je pense, de voter pour son ami Mielvac en disant « Non, moi, je ne vote pas l'invalidation. » On note que Mielvac monte à la tribune quand même pour se défendre, parce qu'on lit le rapport, etc. Et Mielvac monte à la tribune pour se défendre, et là, il a perdu sa voix, il a perdu son éloquence, on le décrit comme un peu lourdeau, pas très inspiré, et voilà. Est-ce qu'il n'y croit plus? Est-ce qu'il sait que c'est perdu d'avance? Pourtant, il connaît bien le lieu. Ou est-ce qu'il est impressionné, tout simplement, d'être à la tribune et puis de devoir se battre pour son poste? Bref, il est invalidé. Alors, à Tulle, ils sont un peu embêtés parce qu'ils disent bon, on sait qu'il a été élu au Conseil Général exactement pareil qu'à l'Assemblée. Donc Tulle se dit, tiens, l'Assemblée l'a invalidé et nous on n'a rien dit, on va peut-être passer un peu pour des gros. Donc on ferait bien de trouver un prétexte, et donc ils cherchent, ils déterrent un prétexte, ils retrouvent une protestation complètement antidatée ou un truc, de toute façon les délais sont prescrits. Enfin, on ressort de la pile un dossier et finalement on l'invalide aussi au Conseil Général, de façon à ne pas être en reste, parce qu'après on va dire, on va quand même passer pour... Corrèze et même Paris, mais enfin bon, on va dire, c'est pas très reluisant d'avoir laissé passer ça. En Corrèze, ça avait choqué personne, cette élection. Hein. Bon, c'est deux camps, il y en a un qui gagne, c'est le plus pourri des deux. Bon, on a déjà connu ça avant, hein. Déjà avant, hein. Un certain Spinasse, bien avant le Spinasse de la guerre de Collabo, c'est le petit-fils, le collabo de la guerre de 40, Spinasse, c'est le petit-fils du Spinasse qui a été élu lui aussi avec des méthodes tout à fait contestables et qui n'a jamais été invalidé. Donc il y avait déjà des familles d'élus corréziens qui n'étaient pas bien respectueuses. Enfin bon, ça se passait comme ça par chez nous, et puis c'était des usages. Donc bref, le Conseil Général invalide, ou le Conseil d'État plutôt, invalide finalement l'élection de Michel Mielvac au Conseil Général. Donc il était élu il avait deux postes, il se retrouve sans rien. Donc du coup, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire des nouvelles campagnes. Et donc, c'est reparti comme en 40. Nouvelle campagne cantonale, nouvelle campagne législative, et ça recommence exactement comme avant. Sauf que Dussol, lui, s'est dit, c'est bon, j'en ai pris plein la figure sur la première élection, je ne me représente pas. Donc on va chercher le cousin de Brugeil, qui s'appelle Brugeil lui aussi, s'appelle Firnan. Et alors, la République va chercher le cousin du Brugeil pour dire que c'est le même nom, alors c'est forcément un type extraordinaire. Bref, le Brugeil va se faire battre lui aussi. Et puis, on va lui trouver un adversaire pour l'élection législative aussi, qui n'aura pas beaucoup plus de chance. Alors, une chose qui est intéressante à noter, c'est que le journal L'Avenir de Mielvac était le champion du monde de l'insulte, de la diffamation, du dénigrement. Mais pour se faire réélire, comme il s'est fait invalider, Mielvac a fait un truc très intelligent. Il a fait venir un rédacteur en chef de Paris, qui lui était favorable. Et ce rédacteur en chef, le premier truc qu'il lui dit, tu te calmes, et tu arrêtes les invectives, tu arrêtes les insultes, tu fais low profile, comme on dit aujourd'hui, tu fais profil bas. Et donc L'Avenir est presque devenu un journal lisible. Mielvac est presque devenu fréquentable. À l'inverse, la République, qui avait perdu les deux élections cantonales et législatives, s'est dit on va faire venir nous aussi un rédacteur en chef de Paris. Ils ont fait venir un type qui s'appelait Bureau, ce Bureau a, lui, commencé les invectives, et donc les choses se sont inversées, c'est-à-dire que le journal de Mielva, qui était tout à fait gentil, on parlait de politique, on parlait de choses bien, etc., et la République n'arrêtait pas dans les insultes. Et finalement, dans l'opinion publique, ça a retourné le truc, c'est-à-dire Mielva qui était invalidé est passé en disant « Regardez, c'est un type tout à fait décent, tout à fait courtois, tout à fait bien », et c'est ce qui lui a permis de se faire réélire, finalement. Au passage, comme monsieur Bureau de la République, le nouveau rédacteur en chef de la République, a dépassé quelques bornes, monsieur Mielvac a dit « je ne me laisse pas faire », il l'a provoqué en duel, et donc ils se sont, à côté de la caserne Brûlin, un jour à 5h du matin, ils sont venus se battre à l'épée. Et donc Mielvac était fort, et Mielvac se battait en duel qu'avec des gens qui étaient moins forts que lui. Il avait une confidence, d'un ami de Bureau qui lui avait dit « Mais le provoquez pas en duel, il sait pas se battre. » Alors il a dit « C'est bon, on y va. » Donc il l'a blessé au coude ou je sais pas quoi, et donc il a gagné son duel. C'était la star de la Corrèze. Et bref, on est reparti pour un combat dans la boue, et Mielvac est réélu dans les deux postes. Donc le 10 juin... Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il est réélu au Conseil avec 882 voix contre 858. Aujourd'hui, on recompterait jusqu'à la mort, jusqu'à 5h du matin, pour vérifier qu'il n'y a pas un petit truc sur le bulletin, mais bon, il n'y a pas beaucoup de marge. Ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, le cousin de Fernand Boget avait soutenu Mielvac à la première élection. Fernand Boget avait soutenu Mielvac contre Dussol, et là, il se présentait contre lui. Bon, en gros, n'importe quoi. Le 8 juillet, un mois plus tard, vous voyez, tout ça se passe assez vite, après une campagne tout aussi calomnieuse et menée avec les mêmes méthodes, Mielvac est réélu à l'Assemblée nationale par, vous voyez, 200 voix d'écart, 300 voix d'écart, même pas 200, 240 voix d'écart, par rapport au concurrent, le docteur Lachaud, qui a lui a été élu jusqu'en 1920, je crois, le docteur Lachaud, oui, il a une avenue, le docteur Lachaud, oui, et alors, le docteur Lachaud est battu par Mielvac, parce que vous voyez, c'est bon, moi aussi j'en ai pris plein à la tête, donc pas, il est parti ailleurs, il a quitté la Corrèze, notamment, il était énervé, et Lachaud s'est présenté. Ce qui est très rigolo, c'est que le docteur Lachaud était le neveu d'Élie Masséna, qui est un des fondateurs de la société scientifique, qui était une fripouille, Élie Masséna, un arriviste qui voulait aussi des postes, des choses comme ça, et je dis ça pas trop fort, oh, et Élie Masséna, c'était le bras droit, un des bras droits de Mielvac. Qui aurait bien aimé, être nommé rédacteur en chef de l'avenir, mais qui n'a pas eu, mais qui était un fidèle partisan de Mielvac et qui voyait en lui une possibilité pour son propre avenir politique. Il était maire de Malemort et Lachaud était au conseil municipal de Brive. Et alors, ce qui était quand même rigolo, c'est qu'on avait le neveu et l'oncle. Donc la presse corrézienne a ironisé là-dessus, il y a eu des caricatures, des trucs et machin, en disant mais c'est quoi ce Bins où le neveu et l'oncle se battent là. Et puis faut voir dans quelle bagarre aussi, faut voir ce qu'ils s'envoyaient à la tête. Donc dans une campagne normale, c'est une chose, mais dans une campagne comme ça, on s'envoie des insultes à longueur de journée et d'articles et de pages de journal, c'était complètement ubuesque. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'à la surprise générale, la deuxième élection de Mielvac, alors qu'elle est faite exactement avec les mêmes moyens et les mêmes méthodes que la première, est validée. Mais normalement, les mêmes causes ayant les mêmes effets, on aurait dû s'attendre à ce que cette deuxième élection soit invalidée. Or, un samedi matin, à l'Assemblée, il y a 20 députés qui se battent en duel. Un député qui a été chargé de la commission d'enquête de la nouvelle de la réélection de Mielvac se pointe en disant « Moi, j'ai rien vu d'anormal. Les 20 qui êtes là, vous êtes d'accord ? On est d'accord. Validé un samedi matin, alors que la première fois, elle était invalidée à l'unanimité à 373 voix. Et là, les 20 qui sont là disent « Oh non, il n'y a aucun problème. Allez, on vote. » Hop, validé. Et le Conseil général aussi, parce qu'une fois que l'Assemblée a validé, bon, ben, le Conseil général, il peut pas, donc il valide aussi. Alors, comment se dit-il qu'il a été validé ? Ça, c'est quand même très intéressant, parce que c'est ce que mes recherches m'ont permis de découvrir. C'est qu'il y a eu, avant l'affaire Dreyfus, 6 mois avant l'affaire Dreyfus, une première affaire Dreyfus, une autre affaire Dreyfus. qui a d'ailleurs porté un énorme préjudice au capitaine Dreyfus. Parce que ce Dreyfus-là, qui est là, était une fripouille. Mmh. Et lui était vraiment coupable, contrairement au capitaine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Camille Dreyfus, qui est ici, est un ancien député. Il a fait 2 mandats. Il connaît très bien le monde politique, les arcanes, il connaît très bien tout le monde. En plus d'être député, il est directeur d'un journal parisien qui s'appelle La Nation. Et accessoirement, c'est l'ancien chef de cabinet de Daniel Wilson, qui est quand même le responsable de l'affaire des fausses décorations qui a provoqué la démission du président de la République, Jules Grévy. Il vendait des légions d'honneur depuis un bureau de l'Élysée. Donc, grosse affaire de corruption. Et donc, c'est une belle fripouille, et qui, en fait, fait chanter des riches personnalités françaises, dont Mielvac. Il fait chanter en disant « Je suis au courant de choses sur vous. Si vous ne me payez pas telle somme, je les publie dans mon journal. » Et en fait, il n'est pas tout seul. Ils sont 7 dans l'arnaque, avec un monsieur qui est ici, qui s'appelle Portalis, Édouard Portalis, qui, lui, est le patron d'un journal qui s'appelle Le 19e siècle. Et tout ça est une affaire de chantage, et ils font chanter des tas de gens. Et donc, Mielvac, un jour, ce Camille Dreyfus vient à Bénin, il vient à Sabou, il vient voir Mielvac pour le faire chanter, pour lui dire « Voilà, c'est temps, il faut payer 20 000 francs. Sinon, je publie Mielvac, il dit « Moi, je suis un arnaqueur, c'est pas les arnaqueurs, on va pas faire l'arroseur arrosé, c'est pas l'arnaqueur qui va se faire arnaquer, je paye pas. » Aussitôt, un déluge d'articles dans le 19e siècle qui mène à l'invalidation de Mielvac. Mielvac cède. Il dit « Ok, c'est bon, j'ai compris, je paye. » Mielvac paye. Sauf que, dans la bande qui mène... Dans la bande qui fait du chantage, il y a un député qui s'appelle Humbert. Et ce Humbert, c'est lui qui est chargé du rapport Mielvac à l'Assemblée. Et donc, Mielvac, où c'est où ? J'ai perdu mon talon de... Je vais essayer de le remettre. Voilà. Pardon pour le bruit. Et donc, Mielvac va voir le Humbert en disant, ou si c'est pas le Humbert, c'est un de ses copains, mais donc je suis au courant que tu es mêlé, toi ou un de tes copains, être mêlé dans l'arnaque de messieurs Portalis, Dreyfus et consorts, et donc je te propose un deal. Moi, je dis rien sur toi, tu gardes ton poste de député, etc., et je dis pas que t'es mêlé à l'affaire, et toi, tu valides mon élection. Et quand aura lieu en février 95 le procès des 7, dont ces deux-là, le seul à ne pas témoigner, c'est Mielvac. Les 7 sont condamnés, à partir de quoi Mielvac fera un beau papier dans son journal pour tout balancer. Mais il n'est pas allé au procès, il a respecté sa parole, il n'est pas allé au procès. Une fois que tout le monde a été condamné, là, il a tout balancé dans son journal. La classe. Voilà. Alors, on arrive à la fin, ça tombe bien, il reste 5 minutes. Mielvac n'a plus qu'un rêve dans la vie, c'est de se présenter à la mairie de son village natal de Messac. C'est pas grand-chose, le natal de Messac, il est député de la Corrèze, il est conseiller général, il veut être maire de Messac, surtout il veut virer du bois de son village natal, et donc il envisage de se présenter. Le problème, c'est que, je vous ai parlé tout à l'heure de Noël Faux, qui était son bras droit, et que Mielvac a toujours trahi Noël Faux, il lui a fait croire qu'il allait le nommer, il a fait croire qu'il était socialiste, et puis Mielvac n'a jamais rien fait pour le socialiste, et donc Noël Faux un jour en a eu marre, et il a décidé de tout déballer. C'est une balance, vous savez, dans le langage policier, dans les romans policiers, on appelle ça une balance. Et bien Noël Faux a été, il en a eu marre, il était trahi, et il a décidé de tout balancer, et donc juste avant l'élection municipale à Messac, Noël Faux a tout balancé, évidemment, dans quel journal ? Dans La République, le journal d'en face, le journal des élus mortels. Et donc, à chaque journal, il y avait une double colonne où Noël Faux balançait tout avec les courriers, avec ce que lui avait dit Mielvac, etc. Et où on découvre, à longueur de colonne, toutes les turpitudes. On croyait que Mielvac n'était pas venu à telle réunion. On comprend que tout ça a été conçu, que c'était un plan, que c'était une escroquerie, que c'était ceci, que c'était cela. Et Noël Faux balance tout. Les gens le lisent, et bien Mielvac est quand même élu à la mairie de Messac. Ou les gens ne savaient pas lire, ou ils s'en fichaient dans les villages. De toute façon, les gens étaient corrompus, ils touchaient, etc. Le problème, c'est que Mielvac, il habite le château de Savoie à Bénin. Il n'habite pas Messac. Il n'est pas sur les listes électorales de Messac, donc il n'est pas éligible. Donc le préfet de la Corrèze, malgré le fait que Mielvac est élu, mais son élection n'est pas validée par le préfet, qui lui écrit une lettre en disant « Cher monsieur, je ne peux pas valider votre élection, puisque vous n'étiez pas éligible. » Donc, Mielvac lui renvoie une lettre d'anthologie, c'est peut-être le document le plus extraordinaire de toute la carrière de Mielvac. Il dit « Monsieur, j'ai l'honneur de vous accuser de réception de la lettre par laquelle vous m'avisez les protestations ont été dirigées contre mon élection de conseiller municipal de Messac. Je ne sais si je puis me défendre et ne veux pas le savoir, sachant d'avance le sort qui est réservé en pareil cas aux vrais républicains et une naturelle du moribond opportunisme. D'un autre côté, le député ayant été invalidé et réélu, le conseiller général aussi, je ne crois pas qu'il soit possible de faire exception pour le conseiller municipal. Il serait jaloux. Faites-lui donc, monsieur le préfet, l'opération le plus tôt ou le plus tard possible à votre guise. J'aurai du reste avant peu d'autres têtes à vous offrir sur l'autel du suffrage universel, puisque comme l'hydre de la fable, mes têtes repoussent à chaque fois que vous voulez votre les couper, aussi ne vous gênez pas. Agréez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération distinguée. Et alors, je vous ai grossi la signature. Mielvac de la Cour, député invalidé et réélu, conseiller général invalidé et réélu, conseiller municipal bientôt invalidé et réélu. Voilà le discours de Mielvac. Et alors, il faut un an pour que ça monte jusqu'au Conseil d'État, que le Conseil d'État effectivement valide l'invalidation, ou invalide et confirme l'invalidation de l'élection municipale. Pendant cette année, la nouvelle campagne a eu lieu, et en 96, les élections municipales et légitimes ont lieu, comme partout en France, et Mielvac est réélu maire de Messac. Et donc, Mielvac est élu maire de Messac, conseiller général, député. À partir de là, on ne le verra plus nulle part. Alors, ni à Tulle, ni à l'Assemblée, ni à Messac. Il sera dans son château, il organisera des chasses. Et très vite, vous voyez là, j'ai mis cette carte postale, le Savoie en plein hiver, pour montrer que c'est fermé, parce que très vite, le château est fermé. Mielvac est ostracisé à la Chambre, parce qu'il n'a aucune idée politique, tout le monde sait que c'est un escroc, il n'est pas le seul, mais tout le monde sait que c'est un escroc, donc aucun parti ne veut lui dans ses rangs. À Tulle, aucune commission, personne ne veut lui aussi. On dit, ok, t'as été élu, mais c'est comme dans une cour de récré, tu joues pour du beurre. T'es là, mais tu comptes pas. Et puis surtout, la guerre commence à Cuba. Les Américains ont décidé de prendre Cuba pour eux, et les Américains commencent à virer les Espagnols, et c'est la guerre hispano-américaine de Cuba qui commence. Mercedes va tout perdre, parce que les Espagnols vont se faire foutre dehors par les Américains, et tout le gros de son capital et de son argent est à Cuba, et elle va tout perdre. Et à partir de là, Mielvac va tout perdre aussi. Elle n'aura plus d'argent, il sera ruiné. Il a dépensé de toute façon énormément d'argent, le château, les journaux, les élections, tout ce qu'on veut. Mercedes est ruinée. Donc, ils vont revendre le château, ils vont partir, et ça va être la fin de Mielvac. Il y aura un troisième tome, je vous en parle.